Bonjour et bienvenue dans Europe'n'Roll. Comme chaque semaine, vous allez tout connaître de l'actualité des jeunes européens. Aujourd'hui, ambiance de mi-septembre oblige, on se retrouve pour une émission consacrée au retour de vacances. Europe'n'Roll vous livre le témoignage d'une Française partie en Allemagne pour ses vacances et celui, tout aussi nostalgique, d'un Espagnol qui doit retourner chez lui après avoir passé une année Erasmus dans notre belle ville de Nancy. Mais pour commencer, je laisse la parole à Maxime pour le Flash Info européen de la semaine.
Belgique. La crise dure depuis 100 jours. La Belgique est sans gouvernement depuis maintenant 100 jours. Après les élections de juin et la victoire du parti chrétien-démocrate flamand, le CDV, c'est Yves Le Terme qui devait former un nouveau gouvernement. Il s'était allié pendant la campagne à un petit parti nationaliste et avait porté un programme de refonte de l'État belge pour aller vers une autonomie accrue de la Flandre. Ce programme controversé a refroidi ses alliés potentiels wallons qui ont refusé d'entrer en coalition avec le CDV. Yves Le Terme avait aussi créé la polémique en mettant en doute la capacité des francophones à apprendre le flamand ou encore en confondant l'hymne belge avec la Marseillaise. Sans gouvernement, le roi dispose d'un pouvoir accru, notamment dans les nominations, pour mener le pays en dehors de la crise. La Belgique, on en reparle dans le Zoom Actu après le flash. Grèce, une victoire de l'ancien Premier ministre. Le Premier ministre sortant Constantin Karamanlis et son parti de centre-droit Nouvelle Démocratie a gagné les élections législatives en Grèce. Avec 41,9% des voix, il s'assure d'une courte majorité à la Voulie, la seule chambre du Parlement. Le vote s'est déroulé dans une atmosphère tendue suite aux incendies sans précédent qui ont eu lieu en Grèce cet été. La campagne législative avait d'ailleurs été interrompue à cause de ces événements. Cependant, le parti n'a pas souffert d'un grand désaveu malgré les critiques au sujet de la gestion des incendies par les autorités. Le perdant du scrutin est le parti socialiste PASOK. Les petits partis ont bénéficié, eux, d'un vote contestataire. Banque centrale européenne. Les critiques de Sarkozy rejetées. Les partenaires européens du président français ont rejeté les critiques de ce dernier au sujet de la Banque centrale européenne. Ils s'étaient notamment étonnés que la BCE injecte des liquidités sans baisser son taux directeur. On a fait des facilités pour les spéculateurs, on complique la tâche pour les entrepreneurs, a déclaré le président français. Il a de même égratigné le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, en s'interrogeant sur les initiatives de ce dernier au sujet du capitalisme financier. Ces critiques se sont toutefois heurtées à la désapprobation de la plupart des ministres des Finances de l'Union, qui estiment que la Banque centrale agit dans le bon sens. Le président de la Banque centrale, Jean-Claude Trichet, a fait d'ailleurs remarquer que la ministre française de l'Économie, Christine Lagarde, avait salué ces dernières décisions. En bref, allonger la durée du travail, c'est possible. La ministre néerlandaise de l'économie en est en tout cas convaincue et il est prévu d'allonger le temps de travail de 36 à 40 heures dans un pays où seulement 52% des actifs travaillent à temps plein. Et insolite, suite à la crise politique actuelle en Belgique, le pays s'est retrouvé en vente sur eBay. Les enchères ont atteint 10 millions d'euros avant que l'offre ne soit retirée du site.
Pour plonger immédiatement dans l'ambiance retour de vacances qui sera notre thème aujourd'hui, on écoute un son qui nous vient du sud. Ça s'appelle « Oper sole parole » de Ligabue.
Oper sole parole Eppure ce le avevo qua un attimo fa Dovevo dire cose Cose che sai Che ti dovevo Che ti dovrei Ho perso le parole Darsi chi abbia perso solo le mie bugie Si sono nascoste bene Forse però semplicemente Non era mia Credi Credici un po' Metti insieme un cuore Prova a sentire dopo Credi Ho perso le parole che ti bastasse solo quello che ho, io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più, credimi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi, credici un po' di più davvero. Sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei, ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho, ti posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo, credi, credici un po' di più davvero, credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi, credici un po' di più davvero.
Pour aller un peu plus loin dans l'actualité européenne toujours très mouvementée, on inaugure cette semaine en grande pompe la rubrique Zoom Actu. Le sujet brûlant d'aujourd'hui, les tensions communautaires en Belgique. Le sujet mérite de plus amples explications.
Nous assistons en ce moment en Belgique à un scénario digne d'une mauvaise blague. Suite aux élections de juin, le chef du parti vainqueur flamand Yves Le Terme aurait dû former un nouveau gouvernement. Mais ses alliés wallons ont refusé d'entrer en coalition avec lui. Le Premier ministre a en effet comme projet une refonte de l'État pour arriver à une autonomie accrue des régions, ce qui serait défavorable à la Wallonie. Le pays est sans gouvernement depuis maintenant plus de 100 jours et il s'agit là d'une crise profonde qui, pour certains, met en péril le régime et l'unité du pays. Alors qu'en est-il? D'où viennent les conflits qui opposent Wallons et Flamands? Explication. Tout d'abord, un peu d'histoire. La Belgique est un État indépendant depuis 1831 à la suite de la Révolution de 1830. À l'origine, il s'agissait d'un État unitaire, c'est-à-dire non fédéral, dont la langue dominante était le français. Pourtant, déjà à cette époque, plusieurs communautés différentes se côtoyaient. Les néerlandophones ou flamands au nord et les francophones ou wallons au sud, puis quelques germanophones dans les cantons de l'est. Et très vite, la première source de conflit est linguistique. Les néerlandophones réclament la reconnaissance de leur langue face aux élites dominantes francophones. C'est le mouvement flamand. En opposition se développe le mouvement wallon qui défend les intérêts des francophones. Ce conflit linguistique va s'envenimer tout au long du XXe siècle avec l'apparition notamment de partis extrémistes dans chaque communauté. L'apogée de la tension sera atteinte dans les années 60. En 1962, on met alors en place des frontières linguistiques qui établissent une première barrière entre les Belges. Ce mouvement enclenchera une dynamique qui amènera à un fédéralisme poussé qui accorde beaucoup de compétences aux régions. Avec la crise de l'industrie wallonne, des conflits d'ordre économique vont apparaître. La Flandre prend en effet de l'avance sur la Wallonie. Tandis que la première, plus peuplée, s'enrichit, la seconde s'enlise dans le chômage et la crise. Or, le fédéralisme belge oblige le Nord à effectuer des transferts financiers vers le Sud, chose que la Flandre accepte de moins en moins. Le problème principal de la Belgique reste aussi un manque cruel de sentiment d'appartenance à une nation. On dit souvent qu'un Flamand n'a rien à voir avec un Wallon, et bien souvent, les membres des deux communautés se regardent comme des étrangers. Aujourd'hui, la crise politique pourrait mener à une remise en cause de l'équilibre fragile qui faisait tenir la Belgique. Les Flamands réclament de nouvelles compétences, ce qui entraînerait un affaiblissement de l'État central. Ils sont aussi favorables à une monarchie protocolaire de type scandinave. En face, la Wallonie tente de défendre ses intérêts, même si le rapport de force ne lui est pas favorable. On a souvent dit que la famille royale était le ciment de l'unité belge. Mais aujourd'hui, le roi, même s'il prend des décisions pour sortir de la crise, ne parviendra peut-être pas à défendre la devise de la Belgique, l'union fait la force.
Et puisqu'on parle de langue néerlandaise, on continue avec un groupe hollandais, ça s'appelle Spinvis, avec Comme une des coques.
Je kop zit klemmen, je kan echt geen kant op en je lijkt wel gek dat je daar achterin zit al de hele tijd. Want er is een plaats in de cockpit bij het raam en wil je naar voren, dan moet je nu gaan staan. In de cockpit is alles wat je wil, alles wat je wil, alles wat je wil.
Europe Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Le retour dans son pays après une année Erasmus est parfois difficile. Un Italien a même écrit une thèse sur le syndrome de la dépression post-Erasmus. Nous, on a interviewé Carles, un Espagnol, après qu'il ait passé une année en France. Écoutez-le.
Je suis avec Carles, qui était Erasmus l'année dernière à Nancy et qui est rentré dans son pays natal, la Catalogne. Carles, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, après quand même une demi-année où tu es rentré chez toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette année Erasmus?
Pendant cette année et demie à Nancy, au nord de la France, bon, j'ai constaté que j'aime bien me mélanger avec des autres cultures. La France, ça m'a appelé, vraiment. J'adore la langue française. C'est une langue qui me plaît beaucoup. Je la trouve super formelle, super polie, super romantique en même temps. J'ai 22 ans, je me considère jeune encore. J'adore voyager, je veux pas arrêter de voyager, vraiment. Là, j'ai resté 6 mois à Barcelone. Là, maintenant, je suis ici à Nancy en visitant mes ex-colocataires, des gens que j'adore. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de partir en Suède et connaître encore une autre culture. Même si la France m'a appelé, voilà, la vie est longue et je peux toujours rentrer en France. Et moi, j'adore tous les sentiments que ça te donne vers les autres pays et vers chez toi aussi. Tiens, chez moi, ça me manque. Chaque fois que je parte quelque part, chez moi, ça me manque. Mais en même temps, ça me fait être capable de comparer chez moi avec des autres pays en même temps. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Et est-ce que tu conseilles à tes amis de faire une année Erasmus?
Ouais, une année Erasmus, ça te ramène dans un état de liberté. Voilà, tu voyages, tu arrives à faire des connaissances dans un autre pays. Tu découvres toi-même, hein, en même temps que tu découvres des autres pays. C'est vraiment un état de liberté, quoi. Après, c'est vrai que voilà, tu finis par faire la fête chaque jour et tout ça, mais c'est pas c'est de là les messages. Les messages, c'est beaucoup plus avec une profondeur beaucoup plus élevée, en fait.
Est-ce que tu avais des préjugés sur les Français avant de venir en France?
Ouais, peut-être, ouais. Dans toutes les langues et dans toutes les cultures, il y a toujours des préjudices, des expressions faites couramment, qui apparemment veut dire quelque chose sur les voisins, mais en fait, après, tu t'en vas là, tu arrives à faire des connaissances là-bas et tu vérifies que voilà, que c'est que des conneries populaires qui sont dites. Je suis sûr qu'en France, il y a plein de phrases sur les Espagnols aussi. Et elles sont pas vraies, j'en suis sûr aussi.
Donc c'est pas vrai que les Espagnols sont des dragueurs?
Oui, peut-être, mais toujours moins que les Italiens.
Hein. Ah d'accord, contrer un cliché par un cliché, j'aime bien.
On continue tout de suite dans le registre espagnol avec Dickers et leur chanson « Gastelu Plaza ». Le retour des vacances, c'est aussi le retour des stages et des voyages linguistiques. Europe Enroll a recueilli le témoignage de Gabriella, une Française qui a vécu une expérience européenne à Karlsruhe, la ville allemande jumelée avec Nancy. On l'écoute au micro de Maxime.
Donc Gabriela, tu as participé à un échange avec la ville de Karlsruhe cet été. Raconte-nous un peu ce que c'est.
Voilà, donc en fait, il s'agit d'un stage d'une durée d'un mois. Donc je l'ai fait ça au mois d'août. C'est la mairie de Nancy qui nous propose ce stage. Et il fallait envoyer un dossier avec une lettre de motivation et un CV en allemand et en français. De Nancy, on était quand même assez nombreux. On était 15 et on nous avait donné une liste avant de partir avec les différents endroits où il était possible d'effectuer un stage. Mais c'est vrai que c'était pas très précis. Donc avant de partir, on se posait quand même pas mal de questions. Il y avait un petit peu de trépidation et puis on est arrivé à Karlsruhe. Et c'est là qu'on a rencontré nos patrons. Et donc moi, pour ma part, j'étais au Stadtjugendausschuss. C'est la partie de la mairie qui s'occupe des jeunes pendant les vacances. Donc c'est un petit peu centre aéré, centre de loisirs. Bon, faut avouer tout de suite, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire dans le bureau. Donc j'ai passé tout mon temps dans le centre de loisirs avec les enfants. Donc pour moi, ce fut une expérience assez nouvelle. J'avais jamais fait ça. Mais il faut avouer que parfois, j'aurais peut-être souhaité faire autre chose, voir un petit peu comment fonctionnait le bureau. Parce que c'est vrai, quand on passe tous les jours de la semaine avec les enfants pendant un mois, bon, voilà. Mais sinon, ce fut une expérience vraiment géniale, que je recommande à tout le monde. Il y en a d'autres qui ont fait ça chez les pompiers. Ça avait l'air très bien aussi. Une amie a fait ça à la mairie, où elle a fait de la traduction. Elle a trouvé ça vraiment passionnant et ça permet de voir le métier, enfin de voir comment ça se passe pour de vrai. Et voilà, il y avait un peu de tout. Il y en a qui ont travaillé au zoo, il y en a un autre qui a travaillé au service de jardinage, donc il faisait les parterres le matin. Enfin.
J'imagine qu'en dehors des stages, vous avez aussi fait pas mal de choses en dehors. C'était quoi les activités qui étaient proposées?
En fait, la mairie organisait une partie des activités, donc ça c'était les visites, on a fait quelques musées, on a fait un tour en avion au-dessus de la ville de Karlsruhe, un petit coucou, c'était vraiment sympa. C'était quelque chose que j'aurais pas fait autrement. Et puis, il y avait aussi les étudiants du cercle d'amitié franco-allemand qui avaient eux-mêmes participé à ce stage, mais à Nancy, il y a quelques années, et qui nous organisaient des soirées. Donc, on a fait des barbecues, on a un petit peu découvert les boîtes de Karlsruhe. Et puis, pour moi, le plus mémorable reste la Strassenbahn Party, où en fait, on loue un tramway, on décore un petit peu à l'intérieur. Enfin, on met des lumières colorées, on met de la musique, on met un bar et on remplit ça de jeunes et hop, on est parti. C'était vraiment énorme.
Ça a l'air génial, ouais.
Ouais, ouais. Et puis, surtout, enfin, il y a pas que les étudiants de Nancy qui font le stage. Il y a des étudiants, il y en a 3 de Roumanie, 3 de Russie, 3 d'Allemagne de l'Est et 3 de Nottingham en Angleterre. Et donc, ça a été l'occasion de rencontrer des personnes plus âgées, plus jeunes, très différentes. Et ça a été vraiment formidable. Tout le monde s'est très bien entendu et il y avait une très bonne ambiance.
Et au niveau de l'allemand, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau pour y aller ou alors c'est pas...
Il y avait beaucoup de niveaux différents, des gens qui parlaient très très bien et forcément ils avaient plus de responsabilités. Mais il faut savoir que je pense que c'est surtout un échange qu'ils font pour qu'on découvre la culture allemande et de ce point de vue-là, c'était vraiment réussi. Après, non, on va pas avoir beaucoup de responsabilités. Évidemment, pour faire la traduction, on demandait de bonnes connaissances en allemand. Enfin, aucun de nous n'était bilingue et... Au départ, j'étais partie pour améliorer l'allemand. Et puis sur place, c'était vraiment génial, enfin parce que moi j'ai passé ma 3e année en Allemagne, donc ça m'a permis de découvrir comment vivaient les Allemands et de découvrir que les Allemands sont vraiment géniaux, malgré le fait qu'ils mangent à 5 heures tous les soirs. Et...
Ok, donc si on résume, expérience géniale.
Voilà, vraiment, je recommanderais ça à n'importe qui et c'est vraiment une
très bonne
occasion.
Et ça se passe tous les ans, donc.
Tous les ans.
Ok, bah, je te remercie Gabriela.
Pour se remémorer l'ambiance des vacances festives au soleil, European Roll a déniché pour vous un morceau enregistré pendant un concert de Vasco Rossi à Rome. Le morceau s'appelle Delusa. Di troppo abusa, rischia un po' di più.
lo così, lo chiamare mio amore, perché gli amori fatti così è tutto solo per te. E sì che se ti muovi così mi vuoi far morire, e lo vuoi che io ti guardi così altro che. Troppa musa, rischia un po' di più, e se sei lupo rischi tu, ehi tu delusa, che cosa vuoi che sia una scusa, stai pur lì, che io lo so, che cosa è il senso di un rock and roll.
Europe'n'Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet. Et on enchaîne avec la rubrique culture. Ole vous a préparé la critique d'un film dont vous avez déjà certainement entendu parler. Le film roumain qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes de cette année.
Étrange exercice qu'une critique d'un film. Allez sur internet et vous y trouverez l'intrigue des interviews des acteurs et des critiques en masse. Quel intérêt alors que d'en parler encore à la radio? De plus, sans qu'on puisse prouver de l'avoir vu, nul besoin d'avoir lu un livre pour en parler, affirme Pierre Bayard dans son dernier ouvrage. Quelques éléments, entendus et lus, ici et là, suffisent pour s'en faire une image, ou un film, si vous préférez. Dont acte est la parole à la multitude. Que dit Internet? Que disent les internautes de la Palme d'Or de cette année? 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Politesse oblige, même une critique doit commencer par quelques flatteries. Rendez-vous donc sur allociné.fr. Le film 4 mois, 3 semaines, 2 jours a décroché la Palme d'Or à Cannes cette année. C'est donc forcément un bon film. D'ailleurs, on nous informe que le cinéma roumain a le vent en poupe. Depuis 2004, pas une année où la Croisette n'a pas vu un lauréat roumain. C'est donc un grand film. Attention cependant, ce n'est pas un film facile. On nous avertit. Des images ou des idées peuvent choquer. C'est que le film se situe dans la Roumanie de Ceaușescu en 1987. Deux étudiants dans une cité U, dont une enceinte. L'avortement est un crime et elles font appel à un faiseur d'anges. Le réalisateur Cristian Mungiu aurait expliqué que ce film est avant tout une histoire de choix personnel. C'est aussi une histoire sur les conséquences subtiles et souvent invisibles de l'endoctrinement. Elle parle d'amitié, de responsabilité et d'amour. Mais c'est principalement une histoire sur l'avortement à une époque où cela était considéré comme un acte de liberté et de protestation contre le régime communiste qui interdisait l'avortement afin d'augmenter la main-d'œuvre disciplinée. Donc, histoire sur l'avortement ou histoire sur la dictature. En tous les cas, le film aura plu au jury de profs. Il a reçu le prix de l'éducation nationale. Les films ainsi récompensés font objet d'une édition DVD qui est envoyée dans les établissements scolaires accompagnée de matériel pédagogique. Mais pour le film 4 mois, 3 semaines, 2 jours, l'État a refusé le financement. Sans intention aucune, on vous donne la réaction du Vatican à travers son journal, l'Osservatore Romano. À présent que le recours excessif aux scènes de sexe a épuisé le potentiel d'attraction du public, un nouveau coup bas est infligé à la dignité du spectateur avec ce film récompensé par la Palme d'Or. Un signal dramatique d'un retour à la barbarie, individuel comme collectif, de nos consciences. On retrouve le même débat dans les commentaires des internautes sur telerama.fr. Attaque contre l'avortement par sa cruauté pour les uns, critique de l'interdiction de l'avortement, pour les mêmes raisons pour les autres, le film divise. Certaines y voient un discours, assez noir, sur la nature de l'homme, avec un petit H, et le féminisme. Encore d'autres soulignent la représentation de la corruption quotidienne, le sadisme bureaucratique, et l'horreur et son absurdité d'un état répressif niant la réalité. Finalement, il ne reste qu'à dire, un film, ça ne se regarde pas par procuration. Le caméo Commandery vous attend avec le film 4 mois, 3 semaines, 2 jours.
C'est déjà la fin de cette émission Europe'n'Roll spéciale retour de vacances. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec une émission artistique. L'équipe d'Europe'n'Roll part en effet découvrir les coulisses du grand salon européen d'art contemporain. On vous en dit plus la semaine prochaine, micro à la main. Rendez-vous dimanche sur Fadjet.